Je vous raconte en 5 épisodes l'histoire de l'année 1973 et voici le deuxième épisode. Au programme, on a volé le cercueil du maréchal Pétain, figurez-vous. Le film Rabbi Jacob provoque un détournement d'avion. On est prié de boucler sa ceinture. Et Alain Delon organise un championnat du monde de boxe.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1973.
Le 19 février 1973, en Vendée, sur l'île Dieu, on découvre qu'on a volé le cercueil du maréchal Pétain.
Dans le petit cimetière de Port-Joinville, très exactement devant la tombe du maréchal Philippe Pétain. C'est une tombe très très simple qui se trouve près du mur du cimetière. Une dalle blanche, deux palmes sur cette dalle et une simple inscription. Philippe Pétain, maréchal de France. Devant, une croix blanche. Derrière, quatre cyprès et quelques fusains autour de la tombe. Alors j'ai près de moi le fossoyeur du cimetière. C'est lui le premier qui s'est aperçu que quelque chose d'anormal s'était produit. Quand avez-vous vu quelque chose?
Ce matin à 8h15, en arrivant au cimetière.
Alors, expliquez-moi ce que vous avez vu, montrez-le-moi.
Je suis arrivé, j'ai fait mon tour comme tous les jours je fais au maréchal, puisque c'est moi qui m'occupe de la tombe. J'ai vu le sable qui avait été bougé. Je me suis dit, tiens, comment ça se fait que ça a été bougé? Alors je suis venu par devant ici, puis j'ai vu que la pierre avait été scellée. Alors bien sûr, après j'ai prévenu la gendarmerie, automatiquement les gendarmes...
Vous êtes certain que rien ne s'était fait hier?
Non, ça a été fait cette nuit.
Ça date de cette nuit.
Le ciment est étouffé, vous pouvez constater encore qu'il y en a par terre.
Les voleurs ont agi au cours de la nuit. Mais qui? Évidemment, on va fouiller du côté des adorateurs de ce personnage controversé de l'histoire de France. L'homme qui a présidé le gouvernement de Vichy, l'homme qui a collaboré avec l'Allemagne nazie. À la libération, Pétain a été jugé pour haute trahison et condamné à mort. Et sa peine de mort a été commuée en prison à vie sur l'île Dieu, où il est mort et où il est enterré. Mais est-ce que sa tombe posait problème sur l'île? Ah ben pas du tout, répond le curé.
Je pense que les gens de l'île Dieu étaient assez fiers d'avoir le maréchal Pétain chez eux. C'est une fierté très discrète d'ailleurs.
Quand vous parlez de fierté, comment vous pouvez expliquer cela?
Bien, ils étaient contents d'avoir chez eux celui qui a été, enfin, de garder, pour ainsi dire, le tombeau de celui qui a été pendant plusieurs années prisonnier chez eux.
Enfin, il n'y avait quand même pas des sentiments un peu mélangés, et il n'y avait pas aussi des adversaires. On ne retrouvait pas là les vieilles positions de chacun.
Actuellement, je ne pense pas, non.
Est-ce que beaucoup de personnes venaient ici régulièrement en pèlerinage?
En pèlerinage organisé une fois ou deux par an, oui. Mais je pense que les îlets, lorsqu'ils faisaient visiter leur île, ne manquaient jamais de faire passer leurs visiteurs au cimetière.
Très vite, le vol du cercueil de Pétain est revendiqué par un commando proche de l'extrême droite. Ils veulent réhabiliter le maréchal et ils souhaitent transférer sa dépouille à l'ossuaire de Douaumont, au milieu des soldats de la guerre de 14-18, près de Verdun. Sur Europe numéro 1, la belle-fille de Pétain assure qu'elle n'était pas au courant de cette initiative.
Absolument pas. Absolument pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Jamais. Je ne suis pas au courant. Le maréchal était pour tout ce qui est normal, régulier et bien. Et il n'y a aucune raison pour que des gens s'excitent et fassent des choses qui iraient à l'encontre du vœu général des anciens combattants et d'une grande partie de la France.
Vous-même, si cela se produisait, qu'est-ce que vous en penseriez?
Je penserais qu'ils ont eu tort. Il faut que ce soit une chose qui soit faite régulièrement et pas à la sauvette. Nous le désirons tous, mais personne ne le fera d'une façon irrégulière. Parce que ce serait idiot.
De son côté, Jean-Marie Le Pen, président fondateur depuis un an du Front National, regrette cet acte sauvage. Il dit que ça n'est pas comme ça qu'il fallait s'y prendre.
Le corps du maréchal Pétain, les cendres du maréchal Pétain devaient être un jour ou l'autre, et le plus tôt possible, transférés à Douaumont, comme il en avait exprimé le vœu de manière solennelle, au milieu des soldats qu'il avait conduits à la victoire. Cela étant, je crois que le transfert de ses cendres ne pouvait se faire que d'une manière tout à fait officielle, sans quoi elle n'aurait aucun sens.
En somme, si je vous comprends bien, vous n'êtes pas d'accord avec le commando, enfin tout au moins les personnes qui ont enlevé ce cercueil.
Je condamne tout à fait formellement ce que je considère comme un acte sacrilège.
Le registre du bac de l'île Dieu qui assure la liaison avec le continent est épluché. Un mouvement louche est pisté. Et en moins de deux jours, la police interpelle 5 membres d'un commando qui forment une belle équipe de bras cassés. 2 légionnaires, un Hongrois et un Polonais, un père et son fils ancien parrain, et un marbrier chargé d'ouvrir le tombeau. Ces cinq énergumènes lâchent tous un nom.
Bah, c'est Hubert Massol. C'est lui qui nous a recrutés. C'est lui qui a tout organisé.
Le cerveau serait donc un publicitaire de 36 ans, Hubert Massol, qui, dès qu'il a vent de la rumeur, convoque toute la presse au Café Cristal, avenue de la Grande Armée à Paris, pour s'expliquer. Oui, c'est lui qui a tout organisé.
Vous avez fait depuis deux jours. Enfin, vous pouvez raconter un peu votre emploi du temps.
Je suis allé au restaurant, je suis sorti. Nous avons ramené le corps en lieu sûr.
Vous allez rester à Paris?
Bien sûr. Je ne crains rien, je ne suis pas un malfaiteur.
Est-ce que vous pouvez nous donner des coordonnées où on peut vous joindre éventuellement?
Non.
Hubert Massol est membre de l'Alliance républicaine pour les libertés et les progrès, qui est un parti d'extrême droite, autrefois dirigé par Jean Tixier-Vignancourt. Et Hubert Massol vénère Pétain.
Je suis personnellement un admirateur du maréchal Pétain depuis que je suis tout petit. Mon père me parlait du maréchal Pétain, mon grand-père m'a élevé dans le culte du maréchal Pétain, et moi-même estime que le maréchal Pétain était un homme politique, comme j'aimerais en voir beaucoup aujourd'hui.
Donc vous vous sentiez particulièrement concerné?
Oui, je suis un pétainiste, même à 35 ans.
Tous les pétainistes n'ont quand même pas monté ce genre d'opération. Vous étiez plus concerné qu'un autre.
Ils auraient bien aimé, mais disons qu'ils ne l'ont pas fait en attendant que d'autres le fassent. Nous l'avons fait.
Les héritiers du maréchal Pétain, Madame de Hérin par exemple, condamnent cette opération.
Je vous ai dit tout à l'heure parce que je pense qu'elle ignorait qu'elles en étaient les auteurs.
Mais pour l'instant, Hubert Massol refuse de dire où est le cercueil.
Vous ne craignez pas pour votre vie, par exemple?
Non, vous savez, je l'ai déjà risqué. J'étais volontaire en Algérie, ce n'est pas ce qui me fait peur.
Si vous étiez incarcéré, car maintenant, dans la mesure où beaucoup de gens savent qui vous êtes, vont le savoir en tout cas, vous courez quand même un certain nombre de risques.
Le risque d'être emprisonné. C'est peut-être pire, mais enfin, parfois, lorsqu'on a décidé quelque chose, lorsqu'il s'agit surtout d'une question d'honneur, je pense qu'on va aller jusqu'au bout.
À trop narguer la police, Hubert Massol joue gros.
Vous ne craignez pas de s'arrêter en sortant du café?
Peut-être. Mais si je suis venu là, c'est que j'en ai assumé tous les risques.
Et vous dites que vous êtes le seul à connaître le lieu.
Eh bien,
allez le dire,
monsieur. Bien sûr. Ah voilà, la police, c'était... Mais je vais vous suivre, monsieur, bien évidemment.
Je vais arrêter.
Je suis arrêté.
Vous attendiez à cette arrestation?
Bien sûr.
L'année 1973.
Et Massol se retrouve au commissariat.
Bon alors, Massol, t'as assez joué, là. Cette histoire prend une ampleur énorme. Il est où le cercueil? Il est dans un garage de l'avenue Gabriel Péri, à Saint-Ouen.
La dépouille du maréchal Pétain est immédiatement retrouvée et rapatriée en ambulance à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Et le lendemain, le cercueil repart pour l'île-Dieu.
C'est sur le terrain des Sabias, au milieu des genêts de quelques sapins, au sud de l'île, très près de l'océan, que se pose actuellement l'hélicoptère qui ramène à l'île-Dieu le cercueil du maréchal. Il est accompagné de deux autres hélicoptères. Il est 11h23.
Le préfet de la Vendée, M. Roger Ninin, est là. À ses côtés se tiennent le procureur de la République et le juge d'instruction des Sables d'Olonne. Ils iront vérifier le cercueil lorsqu'il apparaîtra drapé tricolore. Dans la foule qui assiste à ce retour, il y a les notables de l'île. Il y a aussi un groupe d'habitants, des femmes surtout.
Louis-Dominique Girard, arrière-petit-neveu de Philippe Pétain, assiste à la messe donnée pour le maréchal.
Nous accomplissons une mission qui est celle que le maréchal nous aurait donnée lui-même, parce que le maréchal était un homme de la règle et du devoir, un soldat, et il n'aurait certainement pas accepté une permission irrégulière comme celle-ci, si vous voulez. Et son premier désir eût certainement été de ramener les choses à la situation qui était celle-là le jour où il a été enlevé de son cercueil dans les conditions que vous connaissez, sur lesquelles je ne veux pas revenir ici. Un soldat ne quitte pas son poste, quel qu'il soit. Le maréchal n'a jamais quitté son poste, même dans les missions les plus périlleuses, que ce soit à Verdun ou à Vichy. Il a été jusqu'au bout de son sacrifice. Eh bien, ce sacrifice n'est pas encore terminé, peut-être, mais nous avons bon espoir qu'un jour il le sera et que les Français auront compris. Peut-être cette permission inhabituelle aura-t-elle remué les cœurs et amener les esprits à réfléchir et à mieux comprendre ce qu'avait été le rôle du maréchal dans la partie tout au moins qui lui a été reprochée de son action.
La belle-fille de Pétain, Madame de Hérin, n'est pas du tout du même avis. Pour elle, il fallait en profiter pour enterrer le maréchal à Verdun, avec ses soldats de la Grande Guerre.
Je ne suis pas d'accord parce que le retour des cendres de mon beau-père à l'île-Dieu me paraît une mauvaise chose. Nous aurions évidemment souhaité que ces cendres soient transférées à Douaumont et, comme Maître Isorny l'avait suggéré, en attendant à la chapelle des Invalides. Le ramener à l'île-Dieu, c'est le ramener dans l'endroit où il a beaucoup souffert et où il est mort. Il est mort prisonnier. C'est en somme la suite de sa prison. Et je trouve que ça, vis-à-vis des anciens combattants et de tout le monde, ce n'est pas une bonne chose.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Fin 1973, l'avocat du maréchal, Jacques Isorny, envoie un courrier au médiateur de la République, Antoine Pinet. Il lui demande de réviser la condamnation de Pétain.
Il part de ce principe, c'est qu'on ne peut pas refuser une révision de procès et que jusqu'à présent, on ne lui répond pas. Alors comme mon rôle est d'intervenir pour faire respecter la loi quand elle est violée, il faut que je vois si sa demande est recevable.
Mais si elle était recevable, Monsieur Pinet, est-ce qu'éventuellement, à ce moment-là, vous accepteriez d'intervenir pour cette éventuelle réhabilitation ?
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il sera réhabilité. Ça.
Non, mais vous accepteriez d'intervenir.
Mais je crois que je n'ai pas le droit de refuser si c'est recevable. Ce que je ne crois pas, parce qu'au fond, le maréchal est mort, et qui est-ce qui peut faire la demande ? Ça n'est que lui.
Est-ce que l'homme politique Antoine Pinet ne sera pas gêné par cette démarche
mais
éventuelle ?
Antoine Pinet n'est pas un homme politique, il est médiateur.
Donc quel que soit ce qui a pu se passer dans le passé, précisément, vous ferez votre travail de médiateur.
Moi, je suis très, très, très respectueux de la loi. Si la loi me fait l'obligation de le faire, je le ferai.
Sans vous prononcer sur le fond, finalement.
Ah, mais ça, le fond ne me regarde pas.
Mais le procès ne sera jamais révisé. Et le commando qui a volé la dépouille du maréchal Pétain ne sera jamais jugé.
Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Et le pauvre vin italien s'est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et ils répandent la terre. En glissade et bombardement, c'est de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur.
C'était Mort Jumaan en 1973 avec son tube Il neige sur le lac majeur.
1973. Ondelat raconte sur Europe 1.
Le 6 octobre 1973 a lieu le jeûne juif du Yom Kippour. Et ce jour-là, les Égyptiens et les Syriens profitent du jour férié en Israël pour attaquer le pays par surprise. Et c'est le début de ce qu'on a appelé la guerre du Kippour. En France, le débat est passionné et délicat. Le 10 octobre 1973, l'ancien ministre de la Défense, Michel Debré, s'exprime au micro d'Étienne Moujotte sur Europe numéro 1.
Venons-en au drame du Proche-Orient. Je rappelais que le gouvernement français avait dénoncé l'attaque israélienne de 1967. Je vous demandais s'il ne devrait pas condamner l'agression arabe de samedi. Vous m'avez dit que ça n'est pas tout à fait la même chose.
Écoutez, vous me passez une dépêche à l'instant qui reproduit les propos du ministre des Affaires étrangères. Et je dois dire que si je n'avais pas eu cette dépêche, j'aurais reproduit exactement les mêmes propos. En d'autres termes, les territoires qui viennent de faire l'objet d'une invasion égyptienne et syrienne sont les territoires qu'on appelle territoires occupés, c'est-à-dire des territoires qui, juridiquement, sont des territoires égyptiens et syriens. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que le mot « agression » a le même sens en 1967 et aujourd'hui.
Le problème, c'est que dans quelques jours, sort le nouveau film de Gérard Houry, « Rabbi Jacob », avec Louis de Funès.
Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs.
En tout cas, c'est pas monsieur que ça risque d'arriver.
Quoi donc ?
Que mademoiselle épouse un noir.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Que monsieur est peut-être un peu raciste.
Raciste ? Moi, raciste ! Salomon, raciste ! Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu pâle, vous trouvez pas ? Avec ce petit bouton.
Et son cheveu sur la langue.
Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde.
Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif.
Vous êtes juif ? Comment Salomon, vous êtes juif ? Salomon est juif. Oh !
Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin.
Mais il est pas juif.
Ben si.
Mais pas toute votre famille.
Si.
Tout ça fait rien, je vous garde quand même.
Est-il judicieux de sortir ce film maintenant ? La production ne change pas ses plans. Alors 12 jours après le début de la guerre du Kippour, les Français se bidonnent devant deux funèses tombant dans une bassine de chewing-gum.
Allô ?
Allô ? Le 17, la police ?
Oui.
Donne-moi le commissaire, vite, vite !
C'est le commissaire à l'appareil.
Monsieur le commissaire, il faut venir tout de suite à l'usine de chewing-gum, le Yankee.
Le chewing-gum ?
Oui, le chewing-gum.
Et qui êtes-vous, monsieur ?
Victor Pivert, industriel à Paris.
Pivert ?
Pivert, comme un pivert.
Rabbi Jacob fait un carton. Le film prend la tête du box-office. Et au même moment, on découvre un projet dément. Une femme de 35 ans, Danielle Cravel, armée d'une mitraillette, détourne le vol Air France qui relie Paris à Nice. Sa motivation est assez floue.
Je veux que vous fonciez sur l'usine de Pierre Latre. Enfin, c'est insensé de fabriquer des armements nucléaires. Il faut stopper ça. Mais attendez, si le gouvernement retire Rabbi Jacob des cinémas, ben j'arrête tout.
La pirate de l'air est très confuse. Elle trouve que le film Rabbi Jacob est pro-sioniste et elle exige que l'avion atterrisse au Caire. Le commandant de bord la raisonne et il obtient de dérouter l'avion vers Marseille. Le pirate de l'air à l'atterrissage libère tous les passagers et l'un d'eux est sur Europe 1.
Est-ce que vous avez eu peur ?
J'ai eu très peur, monsieur, parce que dans les films, quand je vois des revolvers comme ça, je dis « Oh, il faut faire ci, il faut faire ça ». Et puis quand on a le revolver braqué sur soi, je vous assure, j'étais paralysée. Elle m'aurait fait faire n'importe quoi, je l'aurais fait. On sentait qu'elle allait tirer pour rien. Il y a une dame qui a dit « Vous allez quand même pas tirer avec des enfants ». Elle dit « Je suis pas un mort près, on est dans les guerres, et dans les guerres, on n'en est pas un mort près ».
Pendant ce temps-là, l'avion est toujours cloué au sol à Marignelles. La preneuse d'otages ne retient plus que deux otages, deux employés d'Air France.
Cette fille donnait des signes de grande agitation.
Mais vous avez le sentiment que cette fille était une militante palestinienne ou une militante sioniste ?
Ça, c'est le point d'interrogation.
Mais est-ce que vous savez ce qu'il est arrivé à cette jeune pirate ?
Elle est restée dans l'avion en disant qu'elle réquisitionnait l'avion et elle l'a fait rester à bord deux personnes de l'équipage.
Et alors, pour l'instant, la situation...
Alors, pour l'instant, la situation est la suivante. Tous les passagers étaient descendus. Il n'y avait pas eu de coup de feu de tiré. Il n'y avait aucune victime. Et les deux personnes de l'équipage restaient à bord, gardées à vue par cette fille et sa mitraillette.
Selon les témoignages des otages libérés, cette pirate de l'air a agi toute seule.
20 minutes à peu près après le départ de l'avion, je vois une femme qui se lève. Un peu hystérique, comme ça. Je vois tout de suite qu'elle n'est pas normale et elle avait un petit chien. Alors, je remarque le petit chien et elle va derrière moi aux toilettes. La porte s'ouvre juste derrière mon siège, aux toilettes. Elle reste longtemps aux toilettes et puis elle ouvre la porte et elle me dit appelez l'hôtesse. Alors, je lui dis, oui, vous ne vous sentez pas bien, ne vous occupez pas de ça, appelez l'hôtesse. Alors, l'hôtesse vient, elle lui passe un papier et elle devient blanche, blanche, blanche. Elle dit aller lire cette lettre au commandant de bord et que le commandant de bord lise à tout le monde dans l'avion cette lettre. Et le commandant de bord est venu et lui a dit « Non, écoutez, on ne va pas lire, on ne va pas affoler tout le monde dans l'avion, soyez calme, je vous promets que j'écouterai tout ce que vous dites, mais restez calme. » Elle braquait un revolver là et elle avait une carabine. Et elle était debout devant la porte des toilettes, entrouverte, vous voyez, comme ça. À ce moment-là, un jeune homme veut se lever pour aller aux toilettes. Elle a dit « Restez assis, sinon... » Ça va saigner.
On apprend que pendant le vol, alors que l'appareil prenait la direction de Marseille, un steward a tenté de la raisonner.
J'ai pu discuter avec elle, essayer de la distraire, enfin, la distraire, si on peut distraire une personne comme ça, si vous voulez, pour détendre un peu l'atmosphère, car je me sentais pas dans mon affaire quand même au départ. On a essayé de la raisonner, lui demander pourquoi elle faisait ça, que c'était bien gentil d'être avec nous, nous le regarder en otage si vous voulez, mais il y a une chose qui a choqué, c'est que cette personne ait été surprise d'avoir pu acheter son arme à 22 Lanrif sans aucun problème. Cette lettre parlait de Dassault, de Marcelin, de M. Mesmire qui était des irresponsables, de ces guerres qu'il faut stopper un peu partout. Alors elle ne voulait pas qu'on fasse sortir le film Rabbi Jacob qui était vraiment insensé compte tenu des événements actuels.
Ça fait 3 heures que l'avion est sur le tarmac de l'aéroport de Marseille. La preneuse d'otages demande un repas. Et là, le GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale, profite de l'occasion pour lancer un assaut. 3 policiers grimés en personnel d'Air France entrent dans l'avion. Et ils tirent sur la preneuse d'otage, qui prend une balle dans le thorax et une autre dans la tête. Elle mourra sur le chemin de l'hôpital. Elle s'appelait Danielle Craven. Et le policier de police s'explique immédiatement sur l'intervention.
Madame Craven a mis en jeu les policiers. Ils ont tiré pour se défendre. C'est de la légitime défense.
Cette version officielle laisse un goût amer aux proches de Danielle Craven. Et notamment à son mari, Georges Craven, publicitaire du cinéma connu du tout Paris. C'est lui, par exemple, qui a organisé la campagne de communication autour du film Rabbi Jacob. Le mari de la pirate de l'air est certain que ce drame aurait pu être évité. Alors il attaque l'État français. Et 2 ans plus tard, il recevra 1 franc symbolique de dommages et intérêts. Et son avocat prouvera qu'il était possible de désarmer Danielle Craven, qui était dans un état de dérèglement mental.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1973.
Le 1er juillet 1973... Ça y est, la ceinture de sécurité devient obligatoire à l'avant des voitures. Il faut dire que l'année précédente, 18 034 personnes sont mortes sur les routes de France. Un chiffre record.
Mettre sa ceinture de sécurité, tel est le premier geste que doit effectuer tout automobiliste dès qu'il monte dans son véhicule. Se mettre la ceinture, c'est en quelque sorte assurer sa sécurité.
Malgré les nombreuses campagnes publicitaires, boucler sa ceinture en 1973 n'est pas du tout évident. La mesure peine à faire des adeptes, à en juger par les avis d'automobilistes ou de passagers recueillis par la rédaction d'Europe numéro 1.
Moi, je trouve les gens qui sont avec la ceinture, ils peuvent se tout permettre, là, hein, parce que ils disent si je maintenant j'ai la ceinture, maintenant je peux doubler, maintenant je peux tout faire.
Sur route, oui.
Ça va réduire le nombre des accidents, selon vous?
Ah oui, incontestablement. Le nombre d'accidents graves. Les gens rentreront dans les platanes, mais ils s'en sortiront.
C'est pas pratique pour conduire. On peut pas faire les gestes qu'on veut en ville, n'importe quoi, même sur la route.
Mais est-ce que vous pensez que si jamais vous deviez avoir un accident, cette ceinture pourrait vous sauver la vie?
La sauver, ou alors c'est pire alors. Des fois on est éjecté de la voiture, on s'en tire. Mais si on reste dans la voiture prend feu, ben vous brûlez avec.
Moi j'ai eu un accident une fois de circulation. Je crois que si j'avais eu la ceinture, je serais resté. Alors que j'ai été éjecté de la voiture. Suivant le sens dont vous prenez le choc, ça peut vous servir ou vous nuire.
Mais tout de même, ce choc, il est imprévisible. Alors, est-ce que l'on doit mettre la ceinture ou ne pas mettre la ceinture?
Pourquoi obliger les gens à la mettre si on ne peut pas prévoir... Si elle est valable 50%, pourquoi obliger les gens?
Après quelques semaines, la sécurité routière commande un sondage. Seuls 17% des Français mettent la ceinture de sécurité.
Monsieur, gendarmerie police la route.
Monsieur, comment est-ce que vous n'avez pas attaché votre ceinture en sécurité?
Ah bien, tout simplement.
Seulement, toujours le calcul des sièges prévient cette voiture, je ne sais pas, est adapté pour.
Eh oui, mais cependant, le code de la route, à l'heure actuelle, vous met dans l'obligation d'utiliser cet accessoire.
Cela vous arrive souvent dans la journée de faire ce genre de remarques au conducteur sur l'autoroute ?
Ben, actuellement, il est assez rare. Beaucoup de gens emploient la ceinture depuis qu'elle est rendue obligatoire, évidemment. Certains ont l'impression d'être trop tenus, ne se sentent pas assez libres au point de vue mouvement. Mais ils sont quand même d'accord de reconnaître que dans le cas d'un choc, ça peut leur être très utile. Mais ils craignent tous, chaque fois, c'est le cas de l'incendie. Ils ont peur, dans un accident grave, la voiture prend feu et ils se sentent prisonniers. Ils ont peur, c'est cette crainte.
Pourtant, les médecins spécialisés en traumatologie sont absolument certains des bienfaits du port de la ceinture. Et dans les médias, ils s'emploient à casser la mauvaise image de la ceinture de sécurité.
Je voudrais dire, puisque vous me parlez ceinture sécurité, qu'il faut que le public sache que le problème de l'incendie à bord du véhicule est un faux problème, car beaucoup de blessés ne peuvent pas sortir du véhicule, non pas parce qu'ils sont bouclés par la ceinture, mais parce qu'ils sont abrutis, qu'ils sont dans un semi-coma du fait du choc, et qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas sortir du tout parce qu'ils sont inconscients. Alors qu'avec une ceinture qui vous a empêché le choc crânien, vous débouclez la ceinture et vous pouvez sortir très rapidement. J'ajouterai qu'il faut également prévoir des ceintures pour les passagers arrière, car dans les chocs violents, ils passent par-dessus les passagers avant et sont quelquefois projetés, comme nous l'avons vu dans un accident récent, sur l'environnement qui est à l'intérieur du véhicule.
Oh là là ! Doucement, docteur, hein ? Déjà qu'en 1973, on a du mal à accepter le port de la ceinture à l'avant, alors pour les passagers de l'arrière, on attendra encore un peu. 17 ans.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Encore des paroles que tu sais mon.
C'était Parole et Parole par le duo inoubliable Dalida Alain Delon.
L'année 1973.
En septembre 1973, le comédien Alain Delon organise un championnat du monde de boxe qui va opposer son ami, le meilleur boxeur français, Jean-Claude Boudier, au champion du monde en titre, le beau gosse argentin Carlos Monzon. La boxe est la passion de Delon.
Pourquoi j'ai accepté de le faire ? D'abord par sympathie, par amitié pour Jean-Claude, d'une part, et d'autre part, tout simplement parce que je pense que nous n'avons pas l'occasion chaque semaine ni chaque année d'avoir un champion du monde en France, que Jean-Claude Boutier est français, que c'est une chance inespérée, peut-être la dernière en ce qui le concerne, et que ce serait trop bête de passer à côté. Mais je trouvais qu'il était important que ce championnat du monde ait lieu, et qu'il ait lieu à Paris, parce que c'est quand même lamentable, si vous voulez, que ce championnat du monde Monzon-Boutier se passe à Monte-Carlo ou à Bordighera, ou à Genève, ou à Bruxelles.
Pourquoi Paris ? Parce que Paris, c'est capitale de la France.
Parce que Paris, c'est capitale de la France, parce que Boutier, c'est la France, et puis parce que la France, c'est la France. Je veux dire, l'importance de l'enjeu, qui est quand même un championnat du monde. On n'en a pas eu tellement, je veux dire. Si c'était la finale de la Coupe du monde de football, la France en lice contre le Brésil, ça aurait été la même chose. Donc pourquoi passer à côté d'une chance comme cela ?
Alain Delon veut faire de ce combat de boxe un événement. Et pour faire venir à Paris Carlos Monzon, Il a pris tous les risques financiers.
Oh, le cachet de Monzon est absolument connu. Il a été écrit partout. Il est de, je ne vais pas dire de bêtises, il est de 125 000 dollars. C'est-à-dire, enfin, pas loin de 60 millions de nos francs, plus ses voyages, 5 billets aller-retour, plus son séjour à Paris, plus son hôtel, les frais de son entourage, etc. Enfin,
avec l'organisation, les secondaires, c'est ça. Et tout ça, ça revient de toute façon à presque 200 millions anciens, pas loin.
Pas loin, vas-y, non. Donc il faut couvrir ces frais-là.
L'acteur s'investit énormément. Il accueille son poulain chez lui pour qu'il se prépare dans des conditions idéales.
Parce que vous le savez très bien, parce que j'aime ce genre de choses, parce que je suis un joueur, parce que je trouve que c'est merveilleux. C'est passionnant d'organiser cela, c'est passionnant la vie que je vais vivre pendant 2 mois dans un camp d'entraînement sportif, c'est passionnant d'être là avec ces boxeurs, c'est passionnant de suivre l'entraînement, d'avoir mes enfants là qui suivent tout ça, c'est tout. C'est une expérience que je pense jamais n'avoir à regretter.
Qu'est-ce qui fait courir véritablement Alain Delon ? Certains prétendent la passion, la gloire, la puissance.
Bon, d'abord une chose, je me fous de ce que pensent les gens, je vous le dis. Qu'est-ce qui fait courir ? Rien ne me fait courir. Je fais ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie, je vis par passion. Ça n'a rien à voir ni avec la puissance, ni avec la gloire. La gloire, permettez-moi en toute simplicité de vous dire que je l'ai connue, que je la connais encore, et que je l'ai eue dans un certain domaine, dans celui que je m'étais fixé, dans celui que j'avais choisi. Ce que pensent les gens, qu'est-ce qui fait courir Alain Delon, c'est pas à moi de leur répondre, ça m'importe peu. Je vis pour moi, pour les gens qui m'entourent, pour ceux que j'aime. Je ne suis pas un égoïste pour autant. Je ne permets à personne de me poser des questions. S'ils veulent se les poser à eux-mêmes, c'est pas moi qui leur donnerai la réponse. Voilà.
Et là, le journaliste qui mène l'interview pour Europe numéro 1, Charles Villeneuve, tente une dernière question.
Vous ne souriez pratiquement jamais. Pourquoi ?
Je crois que pour rire, pour sourire, il faut être bien. J'ai peut-être moins que d'autres d'endroits où je me trouve bien et d'entourage où je me sente bien. S'il m'arrive de me sentir bien, je suis heureux comme tout le monde, je ris comme tout le monde, c'est tout. Mais disons que, en dehors de chez moi, il n'y a peut-être pas des choses qui me font rire. À la base essentielle de tout ça, ça peut paraître idiot, mais c'est que je veux vivre. Et je vis. Je veux brûler. Les journées, si vous voulez, pour moi, n'ont pas assez de 24 heures. Lorsque je dors 12 heures, c'est très bien, je récupère, je recharge mes batteries, mais j'ai l'impression le lendemain, quand je me réveille, d'avoir perdu du temps. Parce que la vie passe vite, parce que les journées se brûlent vite, les années aussi. Et que je sais que chaque jour qui passe, chaque année, chaque mois ne reviendra pas en arrière, et qu'un jour, il y a la seule chose dont on est sûr, c'est que nous sommes tous en sursis. Et la seule chose dont on est sûr, c'est du point final. Moi, avant ce point final, je veux vivre.
Et donc, le 29 septembre 1973, le tout Paris se presse au stade Roland-Garros à Boulogne pour assister à ce face-à-face entre Carlos Monzon et Jean-Claude Boutier, organisé par la vedette Alain Delon. Les places se sont arrachées une fortune, 1500 francs. Le combat est magnifique et assez indécis. Après 12 rounds très âpres, Jean-Claude Boutier est légèrement en tête devant le champion du monde. Mais il reste encore 3 rounds, 3 longs rounds.
Et Boutier vacille dans les bras de Monzon, encaisse à nouveau une droite et tombe là devant nous. Pour la 3e fois, à la 13e donc, à la 14e et à la 15e reprise, Jean-Claude Boutier est allé à terre par une belle droite de Carlos Monzon, juste dans le coin où nous nous trouvons, c'est aussitôt redressé, j'y continue de le frapper, oh là là, oh cette droite terrible de Monzon à la face de Boutier, Boutier s'en est même trouvé ébranlé, mais heureusement pour lui, il avait le rempart de l'arbitre qui passait par là, il s'est presque appuyé dessus, et Boutier a pu rester debout sur ses jambes. Fin dramatique, on peut presque le dire, hein. De cette rencontre entre deux forces de la nature, deux hommes parfaitement préparés ce soir, avec malheureusement 3 rounds de trop pour Jean-Claude Boutier.
Finalement, Jean-Claude Boutier ne résiste pas aux assauts de Carlos Monzon. Il ne tombe pas KO, mais il perd le combat. Jean-Paul Belmondo, grand fervent de boxe, analyse la confrontation sur Europe numéro 1.
Boutier m'a vraiment étonné parce qu'il a été d'abord très 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 courageux, il a eu le train, qu'il a fait le combat qu'il fallait, c'est-à-dire pousser toujours dans ses retranchements Monzon. Il a boxé toujours, a essayé de boxer un ton au-dessus de Monzon, il a été tout le temps sur lui, mais le travail de sable de Monzon a payé au fil de round. C'est pas, sa condition physique n'était pas en question, c'est-à-dire que les coups au corps sont quand même rentrés, beaucoup de coups au corps sont rentrés de Monzon, je crois que dans les derniers rounds, c'est ce qu'il a joué, et il a eu une fin de combat difficile, c'est dommage, mais c'est la boxe.
J'ai pas loin, quoi, c'est passé tout près, et puis je voulais tellement
récompenser tous les gens qui m'ont donné un coup de main. Et puis, ben voilà, pour tout, je voulais donner le titre à la France. Et puis voilà, c'est passé à côté. Et... de peu, mais...
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Conclut ce deuxième épisode dont de la traconte consacré à l'année 1973. Mes poids plumes, Guillaume Maury et Julien Pichenet m'ont aidé à écrire cette aventure. Boris Paczynski signe la réalisation de cet épisode. La suite de notre voyage au cœur de l'année 1973 dans le troisième épisode dont de la traconte une année.
Retrouvez On de la traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.